D'un cabaret d'Apache au nord de la barrière de Clichy, Augustin dut soigner un homme très affaibli, auquel on avait fait un garrot de fortune, et qu'il crut reconnaître pour avoir vu son portrait dans les journaux. « Voilà une rencontre à enchanter Marie-Antoinette », se dit-il en suturant une plaie ouverte qui barrait la poitrine. La musique du chat noir, jouée au piano mécanique, traversait les étages. Il n'apprit que bien plus tard que c'était le vieux portier de la Pitié qui avait donné son nom. Élu à l'Académie de médecine, il dut y prononcer l'éloge de Joachim Alcossé. Il le fit avec une vivacité qui étonna ses amis et ses élèves. Son père avait pris place au poulailler. Marie-Antoinette n'était pas venue. C'était le même théâtre blanc mais sans orage. Peut-être pour avoir craint qu'il ne s'ennuie, et aussi par jeu, et pour d'autres raisons plus obscures, Marie-Antoinette profita d'une absence d'Augustin pour aménager le salon vert. Sa décision prise, elle avait hésité quand même. Le général Grigoriev, avec cet air lointain qu'elle aimait, l'avait encouragée. Quand Augustin vit les boiseries vert tilleul, le lustre de Venise, les trumeaux peints d'après Coypel, il demeura quelques instants interdit. 18 Romains, le cantonnement n'était pas dans la ville, mais de l'autre côté de la rivière après le deuxième pont. Le bruit des souliers ferrés, Germaine Orchol fut la première à l'entendre, parce qu'elle habitait un peu à l'écart, derrière le jardin du maire. Au lavoir il y a 30 ans, elle s'était brisée la hanche et depuis, elle passait toutes ses journées près de la fenêtre d'angle, avec vue sur la route jusqu'au pont, à regarder le passage. Elle entendit d'abord un roulement assez vague, un faible bruit plutôt grave et qui ne couvrait pas entièrement le sifflement du vent dans les peupliers. Puis, elle distingua plus nettement le rythme des milliers de pas sur la mauvaise route de Châteauneuf, celle qui traverse la forêt. Elle n'eut pas de surprise, ayant lu l'affiche sur le mur d'en face quelques jours avant. C'était un rectangle de papier blanc à deux drapeaux croisés pour en tête et qui indiquait où il fallait aller. Sur le mur du lavoir, un bandeau collé par-dessus portait la mention « Les maréchaux ferrants sont rappelés ». Au tournant, elle vit apparaître les chiens de Damien Courcial, qui après la chasse gardait les moutons derrière Nisrules, et l'été descendait avec eux très bas, jusqu'aux étangs de la Brenne. Il courait de front sur la route en aboyant, comme chassé par une force invisible, et pourtant heureux de la précéder. Les soldats apparurent enfin par rang de 4, leurs uniformes rouges et bleus maculés de la poussière du chemin. Les officiers, canne à la main, marchaient sur le côté, et de temps à autre faisaient rectifier l'alignement. Alors, remontant d'un coup de rein leur barda, les fantassins tournaient la tête et reprenaient la ligne. Ils commencèrent à défiler devant la fenêtre de Germaine Orchol, et le bruit désormais étouffant des pas, du cuir sur le sol, de la ferraille la Rosalie venant heurter sur le flanc les bidons de 2 litres, désordre rock des sous-officiers, faisait trembler les vitres. Elle reconnut, chevauchant en tête, précédant le drapeau roulé dans sa gaine, le colonel Nanquette, un Ardennais qui s'était fait à la vie du pays et qui, aux grandes dames de ses officiers, passait ses soirées à l'hôtel de la Poste à jouer au billard. On avait même prétendu que l'enfant de la petite Thérèse de Lormdio, celle qui servait chez les Grigoriev, était de lui. Elle reconnut aussi, bien sûr, tous les jeunes qui transpiraient sous le drap, et qui, ricanant, fiers ou graves, jouaient à l'homme et voulaient qu'on les regarde. Même un aussi pauvre public que Germaine Orchol ne leur était pas indifférent, et ils étaient nombreux ceux qui, arrivant à la hauteur de la fenêtre derrière laquelle la vieille les guettait, tournaient un peu la tête, se redressaient, la regardaient en coin, s'admirant eux-mêmes. Elle n'avait pas le cœur trop sec. Elle en remarqua 2 ou 3, et se dit qu'elle aurait pu aller au lit avec eux, bien des années plus tôt. Ainsi le petit-neveu de Gaston le Vieux Garde, qui avait les mêmes épaules que lui, ses épaules à la fois larges et tombantes qui l'attiraient lorsqu'elle était enfant. C'était avant l'autre guerre, et ses parents étaient métayers chez le comte de Bussy. La terre allait de Saint-Denis jusqu'à Donne d'un seul tenant, et parfois le dimanche le comte venait les voir dans une drôle de carriole à 2 places. Ils buvaient ensemble un peu d'alcool de prune, et ses parents admiraient le costume de velours vert du petit Nathanael, dont le prénom était si curieux. Germaine se tenait dans un coin et ne lui avait jamais proposé de jouer ensemble. Ses parents, d'ailleurs, le lui auraient défendu. Le comte avait une moustache blanche très épaisse et presque plus de cheveux. Il ne parlait pas beaucoup. Les soldats passaient toujours. « Pauvre de nous. Ce que c'est que de nous ?» se disait Germaine Orchol, bercée par le flot régulier. Deux des amis du jeune Bussy n'avaient pas encore reçu leur feuille de route. Le premier devait gagner Toulon, le second les Alpes, et l'on acheminait d'abord les troupes de lait. Eux n'étaient pas saisis par la fièvre, seulement par un ennui plus profond que d'habitude. Il y avait aussi la peur, mêlée au désir de se distinguer quand même. Au reste, comment y parvenir? En quelques semaines, l'infanterie serait à Berlin, effaçant la défaite de 70, et toute la gloire serait pour elle. Et puis, sur la mer, les exploits se font moins voir, ils sont collectifs, ils sont lointains, ne mettent guère en valeur. Quant aux Alpes, que faire au pied des glaciers, entre les chèvres et les sommets? Mais surtout, la guerre se présentait à eux comme un ensemble de difficultés insurmontables, puisqu'il faudrait voyager par devoir et non plus par plaisir, se hâter, commander, obéir et par force s'oublier. Ils avaient réduit le monde à leur mesure. Le monde protestait, croyait-il. En fait, il ne protestait pas, il se déplaçait seulement. Eux se voyaient emportés par le flot. S'ils ne le connaissaient pas, ils devinaient que l'univers, là-bas, dans la guerre, n'était pas insupportable seulement par l'inconfort, mais par la rigueur, à laquelle rien ne les avait préparés, des lois qui le gouvernaient, insaisissables pour eux comme pour les autres dans leur caractère mêlé, à la fois prosaïque et cosmique. Par les fenêtres de la bibliothèque, ils voyaient un petit segment de route entre les haies, et, au-delà, les champs d'avant la moisson tremblant sous le soleil. « La moisson passera. Nous reviendrons pour les vendanges », disaient les hommes sur les chemins et dans les fermes. Quatre prolonges d'artillerie, les servants assis contre les caissons, le dos à la croupe des chevaux, passèrent au trot dans la direction de Bourges. Ils eurent à peine le temps de les voir.